Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes en train de faire cette étude sur l'Apocalypse.
Et
je vous rappelle que l'Apocalypse, c'est le livre de l'accomplissement du royaume de Dieu, c'est-à-dire la restauration et l'instauration du royaume de Dieu. Livre de victoire merveilleux. Ça n'a rien à voir, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour qu'on puisse dire 666 et
l'Antichrist.
Mais c'est Christ qui règne sur sa propriété avec ceux qui l'auront servi, c'est-à-dire vous et moi. C'est pour ça que nous devons connaître ce que la parole de Dieu dit pour l'éternité. Je vous rappelle aussi que si on vous demande des explications ou des comptes, comme disait Pierre, sur l'espérance qui est en vous, il faut que vous sachiez expliquer un certain nombre de choses. Et ça, c'est important aussi pour votre vie spirituelle. Pour le témoignage que vous donnez. Parce que beaucoup de chrétiens passent, excusez-moi, mais un peu pour des ignorants et des imbéciles parfois. L'inconverti pose des questions et le chrétien n'a pas forcément des réponses, alors que nous devons avoir des réponses. Quand quelqu'un te pose des questions, tu dois être capable de lui répondre. S'il a des interrogations, tu dois lui montrer la vérité. Paul disait, nous avons de la puissance seulement pour la vérité. Quelqu'un te dit, oui, c'est quoi le ciel? Tu racontes que tu vas au ciel, c'est comment, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer? Tu dois être capable de dire ce qu'il y a. Et si tu dis, comment tu sais ça? C'est dans la parole de Dieu. Si tu veux, même on peut lire des passages ensemble. Vous savez, il y a des gens qui se sont convertis en écoutant toutes sortes de versets bibliques. Ou parfois, des gens qui ont entendu que Jésus allait revenir, le retour de Jésus, l'enlèvement. Et ça a éveillé un intérêt chez cette personne. C'est quoi, j'ai jamais entendu parler que Jésus allait revenir. Et d'un seul coup, ils se sont intéressés à l'évangile et se sont donnés au Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui leur a expliqué quelque chose. Donc nous devons être capables d'expliquer. Vous devez être capable d'expliquer l'éternité. Où vous allez? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Quand vous allez mourir, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ça scelle les convictions dont on a parlé tout à l'heure. Mais en même temps, ça vous permet de transmettre aux autres le message de la vérité. Rappelez-vous toujours d'une chose. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour qu'on n'y comprenne rien du tout. Elle a été écrite pour qu'on comprenne. C'est pour ça qu'on doit expliquer la parole. Vous devez passer du temps avec la parole et il doit en ressentir pour vous des éclaircissements sur toutes sortes de choses qui vont se produire ou sur des réalités spirituelles. La Bible nous parle dans ce verset de bien des visions, nous l'avons vu. Jean reçoit cette vision de Jésus. Et puis Jésus va lui transmettre, ça c'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, vous vous rappelez, Jésus va lui transmettre le message aux sept églises.
Et
puis, nous avons vu à partir du chapitre 4, il y a une coupure. On n'entend plus du tout parler de l'Église. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Église n'est plus là. Mais au chapitre 4, nous avons cette scène céleste absolument extraordinaire. Avec toute la description du trône de Dieu, ce qu'il y a autour du trône de Dieu. Et puis, au chapitre 5, là, il y a un livre qui a sept sceaux. Et ces sceaux sont des jugements divins sur la terre. La tribulation qui va commencer, qui va être déclenchée par Dieu. Et avant de, qu'on ait été plus loin, je vous ai expliqué qu'il y a comme des fondations qu'il faut avoir. D'abord, la compréhension de ce qu'est l'enlèvement, nous l'avons étudié. Jésus vient chercher son Église. Les morts en Christ qui sont au troisième ciel ressuscitent premièrement. Nous, les vivants, nous sommes transformés. Puis nous allons tous au troisième ciel, vers le trône de Dieu. Et là, nous allons pendant 7 ans avoir le tribunal de récompense. Dieu va nous récompenser sur ce que nous aurons fait, ce qu'il nous aura demandé de faire, comment nous aurons, lui aurons obéi. Par rapport à sa parole, et je vous rappelle aussi par rapport à votre destinée particulière. Là où le Seigneur t'a parlé spécifiquement. Et d'un seul coup, tu sais et tu fais, tu accomplis ce que le Seigneur te demande, comme il te le demande, quand il te le demande. Et puis nous avons vu qu'il y a 7 années dont la Bible nous parle, qui sont des années très prophétiques. Et c'est là où nous avons étudié Daniel 9 avec les 70 semaines d'années. Et nous avons vu que jusqu'à ce que le Messie soit retranché, il y a 69 semaines d'années, c'est-à-dire 483
ans,
qui ont été accomplis. Et d'un seul coup, lorsque le Messie est retranché, Jésus meurt à la croix, alors à ce moment-là, l'horloge prophétique pour Israël s'arrête, nous l'avons vu. Et cette horloge prophétique recommencera quand ? Nous l'avons vu quand Jésus va venir enlever son Église. Donc nous avons vu que cette période de 7 ans, quand Jésus nous dit bien que comme le prophète Daniel en a parlé, donc on voit Jésus lui-même qui rend témoignage à la prophétie de Daniel, Daniel 9.
Et
bien pendant ces 7 ans, ce sera la tribulation sur la terre. Et nous avons vu que cette tribulation va être divisée en deux. 3 ans et demi. Et dans la première partie, Dieu va bombarder la terre avec des jugements qui vont se succéder. Et si vous étudiez comment les 7 sceaux sont ouverts, en parallèle avec Matthieu 24, vous retrouvez exactement le même schéma. Des guerres, des bruits de guerre. Et après, il y a des crises économiques, des famines, etc. Il y a des grands troubles au niveau de la, comment dire, des plaques tectoniques de la Terre. Il y a des grandes catastrophes qui se passent. Dieu va venir juger. Et là, c'est Dieu qui frappe. Je vous rappelle que tant que nous sommes dans ce temps-là de l'Église, Dieu n'envoie aucun jugement sur la Terre. Soyons bien clairs. Dieu n'a pas non plus d'alliance avec une nation quelconque tant que nous sommes sous la grâce ici dans le temps de l'Église. Donc tout ça c'est des précisions qu'il faut apporter parce que c'est souvent des trucs qu'on entend et malheureusement ce sont des trucs qui sont faux. Donc nous avons vu il y a l'ouverture des 7 sceaux à partir du chapitre 6. Seulement l'agneau est digne d'ouvrir le livre bien sûr. Donc il y a le premier sceau, Dieu dit maintenant tout est arrêté, les jugements arrivent. Deuxième saut, la guerre. Ensuite, la famine. Ensuite, la mort. Ensuite, cinquième saut, Dieu fait alliance avec ceux qui vont se convertir pendant la tribulation. Ensuite, nous avons vu le sixième saut, il y a toutes sortes de choses qui vont se produire sur la terre, des catastrophes. Et là, rappelez-vous, c'est Dieu qui envoie ses jugements. La tribulation, c'est l'œuvre de Dieu. La tribulation n'est pas l'œuvre du diable. Le diable va réagir, oui, nous allons le voir d'ailleurs très prochainement. Mais la tribulation, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu frappe les hommes.
Il
a dit, je vous ai donné mon salut gratuit, vous m'avez craché dessus, vous m'avez méprisé, vous m'avez insulté de partout. Maintenant, vous allez voir. Et Dieu envoie des jugements terribles. Nous avons vu dans certains jugements, il va bloquer l'eau, les eaux vont devenir impures, amères, c'est-à-dire imbuvables. Dieu va détruire un tiers des hommes. Dans un autre jugement. Il y a plein de jugements qui descendent. Et en fait, nous avons vu que plus nous avançons dans les sceaux,
et
bien plus il va se passer une accélération des jugements de Dieu. Et beaucoup d'hommes vont s'endurcir, mais aussi beaucoup d'hommes vont se donner au Seigneur. Au chapitre 7, nous avons vu que là, il y a cet aspect des 144 000 et nous avons expliqué que normalement, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est seulement les 144 000, c'est les 144 000 juifs qui vont être sauvés pendant la première partie de la tribulation. Ensuite, l'autre partie du chapitre 7, nous l'avons vu aussi. Il y a une révélation sur la grande tribulation, des gens qui vont être martyrisés. Parce que rappelez-vous, beaucoup de gens vont se convertir pendant la tribulation. Mais ils vont souffrir atrocement. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être tellement persécutés. Ils vont vivre tellement durement leur foi. Particulièrement quand l'Antichrist sera là et aura le gouvernement mondial. Il va y avoir un déchaînement des puissances sataniques comme il n'y aura jamais eu dans ce monde. En essayant de répondre justement à la puissance de Dieu. Puis nous avons vu, il y a le septième sceau qui s'ouvre au chapitre 8. Et là, le septième sceau est constitué de sept jugements, les sept trompettes. Et là, on voit la première trompette, la deuxième trompette, jusqu'à la quatrième. Et à partir du chapitre 9, il va y avoir la cinquième trompette et là on voit vraiment de grands malheurs venir. Il va y avoir des créatures qui gardent l'enfer, des créatures divines qui sont là pour tourmenter les esprits humains qui sont en enfer. On a expliqué ça au chapitre 9, vont sortir. Et vont venir torturer les hommes. Ça sera l'enfer sur la terre pendant 5 mois, la Bible nous dit. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait la sixième trompette. Et après, nous avons abordé le chapitre
10.
Et là, il va y avoir une sorte de prélude, c'est-à-dire quelque chose qui va être dit avant qu'il y ait la septième trompette. Il y a cette histoire où Jean avale un livre qui est à la fois doux comme le miel et amer pour ses entrailles. Et je vous ai montré ces deux aspects de Dieu, le Dieu d'amour mais aussi le Dieu de jugement. Mais Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Mais la Bible n'a jamais dit que Dieu est jugement. La Bible dit bien que Dieu, sa nature, c'est l'amour. Mais Dieu exerce ce jugement. Pourquoi ? Parce que le péché doit être jugé. Il a été jugé en Christ et nous, nous avons été acquittés. Mais ceux qui vivent dans le péché et qui meurent dans le péché subiront leur jugement. Donc nous avons vu que Jean à la fois reçoit les sentiments du Seigneur qui sont doux parce que Dieu veut récupérer la gestion de sa propriété et sa propriété qui est la terre. Mais d'un autre côté, nous avons remarqué que cela fait toujours de la tristesse à Dieu d'être obligé de juger sa créature. Puis nous avons vu le chapitre 11, nous en étions là. Et il nous était parlé de certaines périodes, d'une période dont on voit un certain, je dirais, c'est nommé d'une façon différente plusieurs fois. Donc il est parlé de 42 mois. Cette expression, on retrouve l'équivalent sous une autre forme, sous une autre expression, sous d'autres expressions précisément. Nous avons vu que quand on parle de 42 mois, ou de 3 ans et demi, ou de 1260 jours, ou un temps plus des temps plus la moitié d'un temps, eh bien on parle de la même chose. On parle de la deuxième partie de la tribulation. Quelle que soit l'expression utilisée. Et en fait c'est la grande tribulation. Et nous allons arriver à la grande tribulation parce que c'est là où beaucoup de choses vont se précipiter. Parce que la grande tribulation, c'est là où justement il y aura le gouvernement mondial de l'Antichrist. Et là où beaucoup de choses vont se précipiter au niveau spirituel. Dieu va accélérer ce jugement et le diable va réagir au maximum. Confrontation de puissance de plus en plus forte dans ces périodes-là. Nous avions vu la dernière fois que Dieu va susciter 2 témoins. Et nous sommes posés les questions, qui étaient ces 2 témoins ? Parce qu'il semblerait qu'ils ont un peu une certaine ressemblance dans leur ministère au ministère de Moïse et au ministère d'Élie. Mais nous avons remarqué que ces 2 témoins ne sont pas Élie ni Moïse. Mais des hommes qui vont être puissamment oints par Dieu pour vraiment amener le témoignage de Dieu en disant, en prophétisant, en disant il va se passer ça et ça maintenant. Et nous avons vu qu'ils vont être à Jérusalem. Et à partir du moment où ils vont être à Jérusalem, ils vont être là où l'Antichrist va régner, justement. Donc personne ne pourra les toucher. Sauf évidemment, au bout d'un moment, la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, va réussir à les faire mourir. Et Dieu va les ressusciter. Autant les gens se réjouissaient de leur mort, mais Dieu va faire ce qu'on appelle un pied de nez, je ne sais pas si tu... C'est-à-dire, il va faire exprès de montrer au diable, ce n'est pas toi qui auras le dernier mot. Et en fait, il va les ressusciter et après, ils vont partir au ciel, ils vont être enlevés au ciel. Donc nous avons discuté de ça de la dernière fois. Nous allons donc continuer et voir le verset 15. On va lire du verset 15 et jusqu'au verset 19. Et il est dit, le septième ange sonna de la trompette. Donc ça va être la septième trompette, septième et dernière trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Verset 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi par ta grande, pardon, ta grande puissance et pris possession de ton règne. Verset 18, les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc là encore, on voit une scène céleste. Et en fait, la septième trompette va être l'annonce du point final de la tribulation. En fait, à la fin de ce septième jugement, eh bien, en fait, il va y avoir le deuxième retour de Jésus. Mais vous vous rappelez, le septième sceau était composé de quoi? De sept trompettes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a première trompette, deuxième, troisième, jusqu'à sixième. Et quand la septième trompette va sonner, il va y avoir les sept coupes de la colère de Dieu. Et Dieu va envoyer des jugements encore plus rapidement. Et c'est intéressant qu'à chaque fois où il y a le point final qui se prépare, eh bien, il va y avoir une multitude de jugements dans le dernier sceau, la dernière trompette, etc.
Ça nous
montre encore l'accélération des mouvements divins au niveau des jugements. Plus on s'approche de la fin de la tribulation, plus Dieu va envoyer ses jugements rapidement. Et plus le diable va essayer, parce qu'il a peu de temps, de faire tout ce qu'il peut pour emmener un maximum d'êtres humains avec lui en enfer. Donc c'est ces deux côtés que vous devez continuer à comprendre régulièrement, parce que là on va s'enfoncer dans cette grande tribulation. Donc là, tout va se précipiter. En fait, tous les événements vont précipiter quoi? Le deuxième retour de Jésus. C'est ce qui est annoncé quand il dit au verset 15, le septième ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles.
Et
ça s'accomplira juste à la fin de la tribulation. Et je vous rappelle que là, Dieu va venir récupérer la gestion de la terre à la fin de la tribulation. Et il va venir installer son royaume à Jérusalem pendant 1000 ans, le millénium. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer, mais c'est précipité ici, de plus en plus. C'est de plus en plus rapide. Et au verset 16, Jean va voir une scène absolument extraordinaire. Jean est en train de voir dans le futur des événements incroyables se produire devant lui, devant ses yeux. Il voit dans le monde spirituel que ce que nous allons voir dans la réalité. C'est ce que la Bible appelle l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que l'esprit prophétique le transporte dans des événements extraordinaires dont nous serons les témoins, mais que Jean a reçu à l'avance. Et nous verrons ces choses. Rappelez-vous que vous serez au ciel, nous serons au ciel. Au moment où Dieu enverra ses jugements. Et nous allons réagir par rapport à cela. Nous allons voir tout ce que Jean nous a annoncé d'avance par l'esprit de la prophétie. Il est dit les 24 vieillards, je vous rappelle, qui sont autour, les anciens, qui sont autour du trône de Dieu, tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu. Sur cette déclaration. Et là, ils disent bien, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et ça, c'est merveilleux parce qu'il dit qui est et qui était. Vous savez, ça, c'est une caractéristique de Dieu. Celui qui était et qui est. Dieu n'a pas de passé. Dans le sens de passé où un jour il est apparu. Dieu a toujours été. Il est là depuis un passé éternel. Je vous rappelle que la notion du temps, Dieu nous l'a donnée. La notion de l'espace, c'est à nous que Dieu l'a donnée. Il nous a limité dans la notion de l'espace et du temps. Comme toutes les créatures. Parce que toutes les créatures peuvent dire, j'ai eu un commencement. Ce jour-là, j'ai été créé, pour les créatures spirituelles. Ou nous pouvons dire aussi, nous avons été créés, mais nous sommes nés tel jour sur cette terre. Dieu ne déclarera jamais cela. Parce que Dieu n'a pas de date de naissance. Vous savez ça, Dieu n'a pas de date de naissance, effectivement, il ne fête pas d'anniversaire. Toi, tu peux fêter ton anniversaire parce que tu as un commencement. Mais le ciel entier ici déclare la gloire de Dieu. C'est important que vous méditiez sur l'infinie grandeur de Dieu. Vous savez, très souvent, le piège qui nous est tendu, c'est quand nous sommes au milieu de nos petits problèmes. Tu vas me dire, non, pasteur, moi j'ai des grands problèmes. Ils sont peut-être grands pour toi, mais ils sont archi minuscules pour Dieu. Je vais vous donner un grand secret. Si vous voulez vaincre vos circonstances, passez du temps à méditer sur la grandeur de Dieu. Ça va vous motiver dans votre foi. Ça va vous inspirer à voir grand. À voir et à penser solution plutôt que de penser toutes les 5 minutes au problème. Vous savez, Dieu nous révèle le tel verset dans sa parole, ce n'est pas pour faire joli.
Ce n'est
pas pour qu'on lise un verset. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Ce n'est pas pour ça. C'est pour que tu plonges tes regards sur la grandeur de Dieu, que tu ne peux pas saisir complètement. Mais je vais te dire, ça va beaucoup t'aider d'avoir une révélation sur sa grandeur dans la mesure de ce que tu peux absorber en tant qu'être humain. Mais il y a tellement de choses parfois avec lesquelles nous nous faisons du souci ou devant lesquels on dit, mais c'est un obstacle, c'est une forteresse pour moi. Oui, peut-être pour toi. Mais passe du temps à méditer la grandeur de Dieu sur cette grandeur extraordinaire. Vous vous rappelez, un jour, David a fait cette réflexion. Il a dit dans le psaume 8, il regardait les étoiles. Il regardait l'immensité de l'univers et il louait Dieu pour sa grandeur. C'est important que vous passiez du temps à méditer sur la grandeur de Dieu. Et après, vous allez éclater en louange en disant, Seigneur, tu es vraiment tout puissant. Si tu as été capable de faire ça, Seigneur, qu'est-ce que mon problème à côté? Et c'est là où ta foi commence à jaillir. Vous savez, j'ai remarqué qu'il y a certains chrétiens qui ont ce problème-là. Ils ont du mal avec la foi parce qu'ils n'ont aucune réalisation de l'immensité de la grandeur de Dieu. Dieu ne te dira pas, tu sais Steve, je suis grand, infiniment grand. Sauf si Steve est en train de plonger ses regards dans la parole de Dieu. Et qu'il a soif de Dieu. Et qui dit, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu me montres cette grandeur que tu as. Cette immensité que tu as. Et là, Dieu commence à venir couvrir Steve avec sa présence. Et Steve, il se sent tout petit. Parce que vous savez, plus la présence de Dieu est puissante, plus on s'en sort. Petit. Les gens qui ont beaucoup d'orgueil, ce sont les gens qui ne savent pas vivre dans la présence de Dieu. Les chrétiens orgueilleux, c'est ceux qui n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Parce que quand tu expérimentes la grandeur et la puissance de Dieu, tu ne fais qu'une chose. D'abord, tu te tais. Et tu te sens tout petit. Amen.
Amen.
Mais ce sont ce genre de versets ici, dans l'Apocalypse, qui nous montrent l'immensité de la puissance et de la grandeur de Dieu. Et je vous assure, si vous voulez progresser dans la foi, demandez vraiment à Dieu au travers de sa parole une révélation sur sa grandeur. Et Dieu va commencer à travailler dans ton esprit avec ça. Et tu vas commencer à avoir cette grandeur. Ça va être comme une révélation, parce que ça doit être une révélation. Et crois-moi, après la foi, ça sera beaucoup moins difficile. Par exemple, quand vous imaginez que Dieu a tout créé et qu'il a mis toutes les richesses dans la terre, des fois tu vois des païens qui ont plein de richesses que Dieu a mises dans la terre et lui il a su les exploiter. Et toi tu es là en train de souffrir avec tes petits problèmes. Tu devrais méditer sur la grandeur de Dieu. Dis donc, Seigneur, comment est-ce que ce païen a pu soutirer tout cela? Apparemment, tu as mis d'immenses richesses parce que c'est juste un bonhomme qui a fait ça. Et tu dois réfléchir comment Dieu est un Dieu aux ressources infinies. Aucune provision doit être trop difficile pour toi au niveau de ta foi. Mais ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça va être des étapes de croissance et de révélation. Où tu vas commencer à méditer. La plus grande difficulté pour sortir d'un problème, c'est d'abord au niveau de ses pensées et de ses circonstances, arriver à prendre du recul par rapport à ce problème. Parce que tant que tu es envahi par tes pensées et par ton problème, tu es incapable de voir la grandeur et la puissance de Dieu. Dieu qui a pu créer l'univers comme ça, par sa parole. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas capable de changer ta situation comme ça? Oui, mais pasteur, pourquoi il ne le fait pas? Pourtant, je prie. Parce que tu manques de foi. Et tu manques de foi. Et regarde si ce n'est pas à cause d'un manque de révélation de sa grandeur et de sa puissance. Quand vraiment tu dis, Seigneur, tu es tellement puissant. Qu'est-ce que c'est que juste ça pour toi?
Ce
n'est pas grand-chose, cette histoire. Juste ça. Est-ce que c'est ça qui va me dominer? Alors que toi, tu es tout puissant, Seigneur.
Et
vous commencez à changer complètement votre perspective. Vous avez besoin, nous avons besoin d'une révélation sur cette grandeur. Je vous assure, la guérison devient beaucoup plus facile. La provision devient beaucoup plus facile. Avoir des rendez-vous devient très facile. Des rendez-vous divins, pardon. Pas seulement des rendez-vous, si je sais que c'est facile pour toi, les rendez-vous. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça devient beaucoup plus facile. Quand tu as une révélation sur cette grandeur. Imaginez-vous. Dieu va venir juger cette terre. Dans la tribulation. Il va venir arracher des mains. Du diable, la gestion de la terre pour la reprendre et établir son royaume. C'est établi d'avance. Personne ne changera ça. Et sa grande puissance va faire que l'ennemi va être mis en cage, c'est-à-dire dans l'enfer.
Et
il y a un temps que Dieu a déterminé d'avance pour ça. Personne ne changera ça. C'est déterminé. Le diable et les démons seront mis en enfer.
En Tartarus.
Pourquoi ? Parce que Dieu va récupérer la gestion de sa terre.
Sa
propriété. Et là, cette scène céleste
nous
montre exactement qu'au moment même où il y aura le septième sceau, là, le ciel entier, le troisième ciel entier, va éclater de louange, en louange et en adoration. Il faut une déclaration, verset 18, « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer. » Regardez bien ici, ce sont les 24 vieillards qui disent « Et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Donc ça, c'est une déclaration que les 24 anciens vont faire. Parce que ce n'est pas eux qui vont déterminer, qui vont donner des ordres à Dieu, mais ils savent que Dieu veut faire ça, donc ils vont le proclamer. Donc c'est clair que du ciel, il va y avoir des observations à propos de ce qui se passe sur la terre. Apparemment, on voit qu'il y a une observation qui est là. Il est temps pour toi, Seigneur, nous suivons les événements de tes jugements, de ce qui est écrit d'avance. Et Seigneur, maintenant il est temps. Il est temps maintenant que tes ennemis soient sous tes pieds. La Bible nous dit ensuite, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un tremblement de terre et une forte grêle.
Alors
là, il y a une révélation qui est intéressante à propos de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, on va nous parler du temple de Dieu dans le ciel. On va nous parler de l'arche de son alliance. Et ça, par contre, c'est tout à fait nouveau comme révélation à propos de la description du ciel. Et nous avons peu de choses à propos d'un temple qui aurait dans le troisième ciel.
Donc,
on n'a pas suffisamment d'informations. Mais il semblerait que tout le trône de Dieu, les 24 anciens, etc., etc., tout ce que nous avons décrit, eu de décrit dans le chapitre 4 de l'Apocalypse,
soit
entouré par un temple. Apparemment, tout ça s'est entouré par un temple. Et il y a une arche de l'Alliance. On n'a pas plus de renseignements. Donc, nous ne pourrons pas donner plus d'informations sur ça. Maintenant, nous allons aborder le chapitre 12. Et le chapitre 12 va amener vraiment un certain nombre de révélations que Jean va avoir. Et en fait, Jean va avoir une succession de visions sur plusieurs événements très prophétiques qui se sont déjà passés, qui se passeront, et particulièrement, on va voir à propos d'Israël.
Vous
voyez, on a le déclenchement donc de la septième trompette. Mais à côté du déclenchement de la septième trompette, d'un seul coup, il va y avoir une parenthèse.
ariko iruhande y'inzamba y'indwi turabona akandi bacishamwo.
Et le chapitre 12 va nous donner une parenthèse sur certaines choses à propos d'Israël. Des révélations aussi sur la chute du diable. Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement lorsque Jésus est né? Et on va voir, c'est assez étonnant. Et évidemment, à propos de ce qui va se passer spirituellement contre Israël pendant les temps de tribulation. Donc là, on va voir ce qu'on appelle des flashs, c'est-à-dire que Jean va recevoir un certain nombre de visions. C'est comme s'il y avait une parenthèse pendant cette septième trompette. Et dans cette parenthèse, le Seigneur va montrer à Jean un certain nombre de choses. Donc sur Israël et la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement? Il va y avoir sur le diable aussi un certain nombre de choses. Et il va y avoir aussi, bien évidemment, Israël pendant les temps de tribulation, spirituellement parlant, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous allons commencer à lire le verset 1 et le verset 2. Donc chapitre 12, versets 1 et 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. On va lire jusqu'au verset 5 parce que ça va nous éclairer un petit peu. Un autre signe parut. Alors un autre signe, vous voyez, il y a eu un premier signe. Maintenant il y a un autre signe, donc il va avoir une autre vision. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait à terre ou sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. J'ai voulu qu'on lise jusqu'au chapitre 5 pour expliquer le verset 1 et le verset 2.
Wikimenyeso gihambaye kiboneka mu ijuru umugore yambaye izuba ukwezi kwari munsi birenge vyiwe mu mutwe yambaye igitsibo c'inyenyeri 12 kandi yarakuriwe atura kaborogo kuko aramutswe ababazwa n'ibise mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso igisato c'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe ndwi n'amahembe 10 no mu mitwe yacu cambaye imigara ndwi umurizo wacu ukwega ikigira gatatu c'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira kwisi ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira vyare kugira ngo niyavyara kirotse umwana wiwe avyara umwana w'umuhungu niwe azoragiza amahanga inkoni y'icuma umwana wiwe arasahugwa ajanwa ku mana no ku ntebe yayo.
Alors, pour avoir les explications du verset 1 et du verset 2 pour qui est cette femme, c'est le verset 5 qui nous l'explique. Parce que certains ont commencé à prétendre que la femme qui avait enfanté le fils, c'était Marie. Et en fait, ce n'est pas Marie, c'est Israël. Donc cette femme, c'est clair, c'est Israël. Parce qu'il est dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et au verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert, verset 6, et elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours.
Umugore ahungira mu bugaragwa ahafise ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburirireyo iminsi 260.
Et en fait, on s'aperçoit avec ces deux versets 5 et 6. Ça ne peut pas être Marie, parce que Marie n'a pas été dans le désert et n'a pas été nourrie 1260 jours.
Donc,
c'est Israël qui va enfanter un fils. C'est-à-dire que le salut, rappelez-vous, vient au travers de qui? Au travers des Juifs. Donc cette femme ici, c'est Israël. Et Israël qui va subir un certain nombre de persécutions, un certain nombre de tribulations.
gitandukanye.
Rappelez-vous que Dieu avait suscité la nation d'Israël pour qu'Israël puisse avoir la connaissance du vrai Dieu vivant. C'était la seule nation.
Israël devait
garder et marcher donc dans la connaissance de Dieu et devait transmettre cette connaissance. Rappelez-vous que c'est les deux grandes, je dirais, missions qu'Israël avait. Et Israël a échoué dans cela. Donc, une femme enveloppée du soleil. Et là, évidemment, c'est l'image de la gloire de Dieu qui devait briller au travers d'Israël. Alors, la lune sous ses pieds, ça, c'est pas facile à comprendre. Bon, c'est vrai que Joseph a reçu une vision avec des étoiles, le soleil, la lune. Certains font des parallèles donc avec la vision que Joseph a reçue dans Genèse
37,
excusez-moi. J'avoue que ça, c'est pas très facile à expliquer. Il est dit une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et rappelez-vous que à partir du moment où on parle d'étoiles, on parle de lumière dans les ténèbres. Et nous avons vu que Israël avait donc 12 tribus. Rappelez-vous quand nous avons vu les 24 anciens. On s'est posé pourquoi 24, la question pourquoi 24. On se doute qu'il y a forcément des gens de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et personnellement, les 12 étoiles, je pense que ça représente plus ce qu'on appelle les 12 apôtres de l'agneau. Dans l'Apocalypse 21, verset 14, il nous est parlé des fondations de la Jérusalem céleste. Il est dit la muraille de la ville, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste, que Jean va voir, dont on parlera quand on étudiera le chapitre 21, entre autres, mais même un chapitre précédent aussi, de la ville avec 12 fondements, et 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau.
Urugo ruziguje uwo mugwa rufise amatanguriro 12 yanditswe kwa amazina 12 y'intumwa 12 za wa mwagazi.
Rappelez-vous que l'église a été fondée à partir des 12 apôtres.
Mwibuke ko ishengero ryatangujwe n'intumwa 12
z'umwagazi. Vous rappelez que c'est 12 moins 1, c'est-à-dire moins Judas.
Mwibuke ko ari 12 ukuyemwo Yuda.
On peut largement se douter que le 12e a été Paul.
Turibaza cyane yuko uwa 12 yasubiriye Yuda ari Paul.
Certainement ce que Jean a vu c'est cela. Maintenant, certains pourront dire non, c'est les 12 tribus d'Israël. Il y aurait plusieurs interprétations à mettre sur cela, sur les 12 étoiles sur sa tête. Alors, verset 2, elle était enceinte, donc Israël était enceinte, c'est-à-dire qu'elle va enfanter. Elle criait en étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et nous savons qu'évidemment que, Israël a toujours eu des tribulations, a toujours été combattu, une nation extrêmement combattue. Et sachez que ce n'est jamais par hasard qu'Israël a été autant combattu. Il l'est toujours autant. Parce que derrière tout ça, c'est un combat spirituel. Tout ce qui se passe autour d'Israël a toujours été et est toujours un combat spirituel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans le monde spirituel et qui se manifeste. Nous avons la manifestation au travers des informations. Mais derrière tout ça, il y a vraiment des puissances spirituelles qui ont d'abord toujours essayé Israël d'empêcher Israël de pouvoir garder la connaissance de Dieu. Et lisez l'Ancien Testament, vous verrez que régulièrement, Israël subissait des attaques pour violer les commandements de Dieu. Et évidemment, pour transmettre encore cette connaissance.
kugira ngo ntibashobore gutanga ubwo bumenyi bafise
Imana. Là, Israël, c'est elle qui a enfanté le Messie.
Aha cyo tubona Israël niyo yabyaye Messie.
Jésus est venu à partir d'Israël.
Yesu avuka avuye muri Israël.
Jésus a dû venir au travers de la femme qu'il a enfantée entre guillemets.
Yesu yaje aciye muri uwo mugore yamubyaye.
Ensuite, il est dit verset 3.
Ha makumurongo wa gatatu.
Donc là, il a une autre vision. Il voit un autre signe. Et d'un seul coup, il va voir l'ennemi. Représentation de Satan. Verset 3, il est dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes sur sa tête, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté.
Gomwe juru haboneke kindi kimenyetso igisato chamahero gisani kibengebenge gifise imitwe ndwi n'amahembe 10 no mu mitwe yacho chamba y'imigarandwi. Umurizo wacho ukwega ikigira gatatu cy'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira kwisi. Ico gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira byare kugira ngo niyabyara kirotse umwana wiwe.
Alors au verset 9, on va voir tout de suite qui est ce fameux dragon.
Reka turabe ku murongo w'icenda ico gisato icarico.
Alors il est dit, il fut précipité, on va en parler un peu plus tard, le grand dragon, le serpent ancien, a appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre.
Cha gisato chamahero kirakorogwa nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi irindi ni satani nico kizimiza bari kwisi bose gikororegwa kwisi abamareka bacho bakororanwa naco.
Donc nous savons que celui qui est représenté par Jean, décrit par Jean par un dragon, et c'est qui? C'est l'ennemi.
Urumva Yohana avuga ngo ni gisato chamahero numwansi.
Alors Jean voit sept têtes.
Yohana bona imitwe ndwi.
Et ces têtes, ça représente le pouvoir que Dieu avait donné à l'ennemi. Il n'était pas l'ennemi à l'époque.
Imitwe ndwi igaragaza ububasha Imana yari yarahaye umwansi ico gihe ntiyari bwa umwansi.
Alors faisons bien attention à une chose.
Nukugaba rero ku kintu kimwe.
Quand Dieu a créé Lucifer, Lucifer c'était le nom du diable avant qu'il chute.
Imana ikirema Lucifero ariryo zina rya Satani mbere yuko akorogwa.
Nous l'avions déjà vu dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14.
Twarabonye muri Ézéchiel 28, Yesaya 14.
En fait, Lucifer, littéralement en hébreu, ça veut dire un astre brillant, c'est-à-dire une étoile qui brille beaucoup.
Lucifer mu giheburayo bisobanura ngo inyenyeri kayangana.
Donc qui reflète beaucoup de gloire.
Uvuga ngo inyenyeri yerekana ikayangana ubwiza bwinshi.
Dieu avait donné à ce chérubin.
Imana yahaye uyu mukerubi wa kera.
À ce Lucifer.
Uyu Lucifero.
Beaucoup de pouvoir.
Ububasha bwinshi.
Et là Jean voit spirituellement.
Yohana rero abona mu buryo bw'impwemu.
Le pouvoir que Satan avait.
Ububasha Satani yarafise.
Il l'a toujours.
Agifise n'ubu.
Mais qu'il utilise à des fins perverses.
Mugabo akoresha mu buryo butari bwo.
Parce que rappelez-vous d'une chose. Les démons n'étaient pas des démons avant.
Ibuka ko amadaimoni atari amadaimoni.
Le diable n'était pas diable avant.
Satani ntiyari Satani ubwa mbere.
Lucifer est devenu le diable, le dragon, le serpent ancien.
Lucifer yacitse Satani yanzoka ya kera.
Parce qu'il a chuté, parce qu'il s'est rebellé contre Dieu.
Shagisato kubera ko yagararije.
Les pouvoirs que Dieu lui avait donnés lors de sa création, quand il a créé Lucifer, Jean les voit comme sept têtes. Et donc, c'est sept pouvoirs particuliers dont Lucifer était revêtu, qu'il utilise maintenant, bien sûr, contre Dieu et contre son royaume. Alors, vous voyez, donc, il est parlé de sept têtes. Avec des diadèmes, c'est-à-dire des sortes de couronnes. Et ça signifie qu'il avait une beauté à l'époque. Mais par le péché et par la rébellion, le diable est devenu une créature laide. Tous ceux qui ont eu des visions, que ce soit du diable ou des démons,
babona amadaimoni cyangwa bakabona satani
ont tous décrit sans exception
bose bacapuye
le diable et les démons comme des créatures hideuses, c'est-à-dire extrêmement laides.
Bacapuye satani n'amadaimoni nk'ibicapo bibishe kubona.
Tous ceux qui ont vu des anges Ils ont vu la beauté de ces anges et la gloire de Dieu. Rappelez-vous qu'on parle d'anges déchus. Déchus de la gloire. Donc ces démons, ce sont des anges qui ont perdu leur gloire et leur dignité, nous dit la parole de Dieu. Le diable étant leur chef et celui aussi qui a perdu la gloire de Dieu sur lui. Le diable ne brille pas de la gloire de Dieu. Par contre, il a des pouvoirs qui lui sont restés et qu'il utilise contre Dieu et contre son royaume. Donc ici, Jean parle d'un dragon, c'est-à-dire d'une bête affreuse. Et qui va, en fait, qui a certaines caractéristiques qu'il voit dans le monde spirituel. Il parle de cette sept têtes, donc de ces sept pouvoirs dont il était revêtu. Et après, il va rajouter quelque chose. Autant les sept têtes, on ne va pas les voir souvent. Mais la Bible va nous parler de quelque chose de particulier. Elle va nous parler, ayant sept têtes, verset 3, au milieu du verset 3, et 10 cornes. Et là, nous allons lire plusieurs textes qui vont nous parler de ces cornes. Parce que ici, il y a toute une représentation symbolique. De ces fameuses 10 cornes qui vont être le pouvoir de 10 nations. Le premier qui avait déjà eu cette révélation, eh bien, c'est Daniel. Dans Daniel chapitre 7, eh bien, il va voir plusieurs bêtes. Et en fait, il va voir 4 bêtes. Et il va voir quelque chose sur la quatrième. On va lire du verset 4, Daniel 7, verset 4.
Daniel 7,
jusque donc au verset 8. Donc Daniel 7, verset 4 à 8.
Daniel 7, 4 à 8.
Et il est dit, le premier était semblable à un lion qui avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses aigles furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Ça, c'est les Babyloniens. Vous vous rappelez qu'il y a une succession de 4 empires sur la statue de Daniel, chapitre 2.
Donc
vous vous rappelez que dans la statue de Daniel, Daniel voit 4 parties. Daniel chapitre 2, vous vous rappelez, l'empire des Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Et là, Dieu lui donne au chapitre 7 l'image, donc une prophétie sur 4 animaux.
Et qui
sont le parallèle des 4 parties de la statue. Donc les Mèdes et les Perses, voici un second animal qui était semblable à un ours et il se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule, etc. etc. Verset 6, là ça va être les Grecs. Après cela, je regardais, voici un autre, donc un autre animal était semblable à un léopard, etc. etc. Ça, c'est les Grecs. Ensuite, verset 7. Après cela, voici, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, des 3 animaux précédents. Et regardez bien, et il avait 10 cornes. Verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et les 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Tu peux lire versets 7 et 8, s'il te plaît.
Kumurongo w'indwi ngo hanyuma y'ivyo muvyo neretswe mwijoro ngira ntya mbona igikoko ca 4 giteye ubwoba c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi cari gifisa imihaha minini y'ivyuma kiratabagura kirajanjanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yacu cari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere kandi cari gifise amahembe 10 nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze akandi gahembe gatoyi imbere yako hakugwa amahembe 3 mu yari asanzwe maze ako gahembe nkabona mwa amaso asa nayo umuntu nakanwa kavuga ibihambaye.
Vous allez me dire oui, pourquoi ces animaux sont-ils les 4 empires?
Wombaza uti kubera iki ibi bikoko wabivuze ko ari ubwami bune?
Eh bien, vous avez l'explication à partir du verset 17.
Kuva ku murongo w'17 atangura gusobanura ivyo.
On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 28 et vous allez voir. On va mettre plusieurs passages en parallèle. J'y vais doucement dans ces choses-là parce que souvent les gens ne comprennent pas bien.
Donc,
Daniel est très troublé devant ses visions et un ange va lui donner l'explication. Il lui dit, ces 4 grands animaux, donc ce que nous avons lu tout à l'heure, ce sont 4 rois qui s'élèveront de terre. Ça va correspondre à sa prophétie qu'il avait eue avec la statue. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. À la fin de la tribulation, nous allons posséder le royaume parce que Christ sera à sa tête. Ensuite, je désirais savoir la vérité. Regardez bien sur le 4e animal. Vous vous rappelez, le 4e animal, c'était une bête féroce qui était très différente des autres, qui était différente de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles, des reins, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle, 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et avec une plus grande apparence que les autres. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Ah, la guerre aux saints. Et l'emporter sur eux. Verset 22. Jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume, le millénium. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, regardez bien, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer les temps et la loi, et les saints seront livrés dans ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tiens donc, on retrouve toutes nos révélations d'Apocalypse. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, les 3 ans et demi, la grande tribulation bien sûr. Puis viendra le jugement, et on ôtera sa domination, et il sera détruit, et qui sera détruite, pardon, et anéantie pour jamais. Verset 27, le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, c'est-à-dire à nous, frères et sœurs, son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Verset 28 et verset final, ici se finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé dans mes pensées, je changeais de couleur, je conservais ces paroles dans mon cœur. Donc on voit ici que ces fameuses 10 cornes de l'Apocalypse 12.
Aho somye kuva ku mongo 17 gushwa kuri 18 urabona ko aya mahembe 10 batubwira mu byashuro 12
que le dragon a sur sa tête.
Batubwira ko igisato cari gifise ku mutwe wacu.
Et bien cela représente une prophétie sur la fin des temps.
N'ikintu kijanye n'ubuvugishwa bwatanzwe ku bihe vya nyuma.
Et cette prophétie sur la fin des temps, bien sûr, va concerner particulièrement l'Antichrist.
Kandi ubuvugishwa ku bihe vya nyuma bwerekeye cyane cyane Antichrist.
Les 10 cornes.
Amahembe 10
qui sont le symbole des 10 nations.
Ari cyo kimenyetso cy'ibihugu
10 s'assembler, nous allons voir.
Bizoja hamwe byo navyo tuzobibona.
Il va y avoir une petite corne.
Habeho agahembe kamwe.
Et il va y avoir 3 nations qui vont se lever.
Habeho n'uduhembe dutatu.
Et la petite corne, ça va être un leader mondial.
Bizokugwaho maze kabe
ako gahembe. Il va écraser et abaisser ces 3 royaumes.
Umurongozi kabanze gukura
ibihugu. C'est cette petite corne qui va dominer. Et ça, c'est l'idée du pouvoir de l'Antichrist. Nous allons étudier ça. Maintenant, on va faire un petit tour au chapitre 13 de l'Apocalypse, qui va encore nous parler justement de la bête. Ah, on en arrive à la bête, la fameuse bête. Et là encore, la Bible va nous parler de ces fameuses 10 cornes. Il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer, c'est-à-dire des hommes. Je vous rappelle que la mer, c'est le symbole des êtres humains, des foules, des êtres humains. C'est ça que ça veut dire. De la mer, une bête qui avait quoi ? 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème.
ngo gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Ndabibutse ko ikiyaga kivugwa kenshi n'abantu. Mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yacu hari migara canke ibitsibo 10 no ku mitwe yacu hari hamazina y'amarogo 5.
Donc on voit que ces 10 cornes ça va symboliser ces fameuses 10 nations.
Et aya mahembe 10 ni bihugu 10
qui vont être à la base du gouvernement mondial de l'Antichrist.
Ari nayo azobari urufatiro canke intango ya leta mpuzamahanga
ya Antichrist. Nous étudierons précisément justement au chapitre 13.
Tuzovyiga navyo rero ku gice c'13 neza.
Mais revenons un peu au chapitre 12.
Reka tugaruka gato gice c'12 ariko.
Donc après la description qu'il a du dragon, c'est-à-dire du diable.
Amazero kubona ivyo satani avugwa ko igisato.
Il est dit au verset 4 sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre.
Umurizo wacu ku murongo wa 4 ukwega ikigira gatatu cy'inyenyeri zo kwijuru uzishiburira kwisi.
Alors ici en fait beaucoup de théologiens, je suis entièrement d'accord avec ça.
Abantu bize bya théologie byinshi benshi
pense que cette première partie du verset 4
demezanya nabo bavuga ko iki gice dusomye
concerne la chute du diable quand il a été chassé, quand il a voulu prendre usurper l'autorité de Dieu.
Nous
n'allons pas revenir sur ces textes, hein, c'est Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, nous l'avons vu. Beaucoup de théologiens s'appuient sur ce texte pour dire que le diable a entraîné avec lui dans sa chute un tiers des anges. Je suis relativement d'accord avec cette doctrine. Parce qu'il semblerait vraiment que ce passage nous parle de c'est le diable donc qui entraîne avec lui, c'est-à-dire entraîner dans le sens, il les force pas.
Mais
qui arrive à convaincre des anges de se rebeller contre Dieu. Et les jeter sur la terre, c'est-à-dire c'est là où il y a l'activité démoniaque, je vous le rappelle. Particulièrement autour du premier ciel, dans l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Alors ici, ensuite il est dit dans la suite du verset, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors ça c'est absolument intéressant de voir comment Jean va assister à ce qui s'est passé spirituellement. À quelque chose dont il avait entendu parler dans le naturel. Rappelez-vous ce qui s'est passé autour de la naissance de Jésus. Là, Jean voit dans le spirituel ce qui s'est passé. Que la menace sur la mort de Jésus a été quelque chose de spirituel à la base. Vous savez, il y a parfois des choses qui sont initiées par la méchanceté pure de l'homme. Mais il y a aussi parfois des choses qui sont initiées par l'influence satanique directe.
Ariko hari nibindi biba bitewe n'ubukozi bw'ikibi bwa Satani ubwiwe.
Tout mal qui est fait sur cette terre
ibibi byose biba ku isi
n'est pas forcément l'influence satanique.
Byose ntibiva kwa Satani.
En tout cas directement.
Novga ari wabiteye
c'est la conséquence du péché, la chute, on est d'accord.
Ubwo nyene hari ni kubera ingaruka y'icaha.
Directement par exemple si quelqu'un ment ou si quelqu'un vole,
On peut
pas dire ah le diable l'a fait mentir, l'a fait voler. Sinon l'homme serait pas responsable de ses propres péchés. Il pourrait dire non, c'est le diable. Dieu blâme le, vas-y condamne le diable, mais moi j'ai fait parce qu'on m'a poussé à le faire. Et là on voit que derrière la naissance de Jésus, la menace sur la naissance de Jésus, le diable avait projet de détruire parce qu'il savait ce qui se passait spirituellement. Il savait que la naissance de Jésus n'était pas quelque chose de naturel. Donc la menace du roi Hérode, regardez dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Vous savez que le roi Hérode va être visité par des mages, c'est-à-dire des personnes qui a apparemment marché avec le Seigneur,
qui étaient
des Arabes,
et
qui sont venus du Moyen-Orient, donc d'Arabie, pour voir, parce qu'ils avaient reçu de la part de Dieu que le Messie était né.
Baje bavuye mu bigobe by'Abarabu baje kuraba ibijanye n'uwo Messie yabumvise ko azovuka canke ko yavutse.
Et ces mages vont annoncer, ils vont dire à Hérode, mais il paraît qu'il y a un roi, le roi des Juifs qui est né.
Baraza babwira Hérode bati twumvise ko hariho umwami yavutse.
Et Hérode dit, ben, je suis pas au courant.
Hérode aravuga ati ntavyonze.
Montrez-moi où est-il. Si vous le trouvez, montrez-moi où il se trouve le monsieur, je voudrais bien venir moi aussi l'adorer.
Ati ni mumunyereke nanje nje kumusenga ndavyifuza mumbwire yari.
Et en fait, on voit au verset 16 de Matthieu 2, vous pourrez lire tout le passage.
Hein.
Les mages vont en fait partir parce qu'ils sont divinement avertis par le Seigneur
de
ne pas retourner vers Hérode. Bon, on va lire à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait ordonné par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Verset 16. « Alors Hérode, on va lire le verset 16 en qui on dit après, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus qui étaient à Bethléem dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. »
Ngo maze Hérode abonye ko yahenzwe n'abo banyabwenge arajingitwa cyane atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose ihakikije abamaze imyaka 2 n'abatarayimara yagerereje igihe yasigurije abanyabwenge.
Et en fait on voit ici que ce qu'il y avait derrière cette recherche de faire mourir les premiers-nés, parce que Hérode pensait que Jésus, qui ne savait pas, il ne savait pas son nom bien sûr, mais il pensait que le roi qui était né était encore en Israël. Hérode va ordonner à ce que tous les premiers-nés soient tués, surtout ceux qui sont nés autour de cette date. Et ce massacre était poussé directement par des puissances sataniques. Et c'est le diable qui a initié cela au travers d'Hérode, imaginez-vous. Il est parlé d'irritation. Vous voyez, là on a un texte dans les évangiles qui nous donne le côté naturel. Quelqu'un qui se sent insécure en disant il y a quelqu'un qui est né, il va prendre ma place.
Et
l'Apocalypse nous révèle que cette tuerie était d'origine spirituelle au départ. Satan a essayé d'intervenir directement pour faire du mal aux hommes. Et
vous
voyez, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un monde invisible autour de nous. Et parfois, le mal que vous voyez autour de vous, il peut être simplement d'origine charnelle. Mais parfois, il peut être directement d'origine spirituelle. Et autour de la naissance de Jésus, il y a eu des menaces de mort sur le Seigneur qui ont bien sûr échoué, mais qui étaient directement une intervention satanique.
Et
donc, on a un texte dans Matthieu où on voit le côté naturel, et on voit un texte dans l'Apocalypse où ça nous montre une origine spirituelle.
C'est pour ça, méditez
la parole de Dieu. Et plus vous méditerez la parole de Dieu, plus vous allez découvrir certaines choses que vous ignorez. Et plus vous cesserez peut-être de croire des choses qui ne sont pas bibliques. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et on continuera la semaine prochaine.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.